Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Pour éviter le reconfinement et maintenir les activités, vous avez incité, vous incitez encore les entreprises à davantage de télétravail. Mais vous déplorez, j'ai vu des manquements dans certains secteurs comme les banques, les assurances. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Ben écoutez, on sait que globalement, il y a eu une érosion du télétravail depuis la fin du mois de novembre. On a reculé d'à peu près 6 points parmi les salariés qui peuvent facilement télétravailler et de 15 points parmi ceux qui télétravaillent à 100%. Et il y a quelques secteurs que j'ai reçus hier dans lesquels le recul est plus marqué. Donc il faut que chacun se remobilise.
Quel secteur ?
C'est ceux que j'ai cités ? Banque, assurance, oui. Tous les secteurs aussi du conseil et de l'ingénierie. Donc dans ces secteurs, la situation, elle est différente selon les entreprises. On en a certaines qui continuent à être très mobilisées. C'est le cas notamment dans les banques. Et puis il y en a d'autres qui finalement ont un peu baissé la garde, on va dire. Donc c'était bien l'objet de la réunion que j'ai eue hier avec elles, de leur dire tout le monde se remobilise.
Oui, mais est-ce que vous pouvez les obliger ? Alors c'est ça l'inspection du travail, mais quelles sont les règles précisément pour ça ?
La règle est très claire. Depuis fin octobre, toutes les entreprises doivent appliquer cette même règle. Quand on peut faire une tâche à distance, alors on doit être en télétravail. Si vous pouvez faire toutes vos activités à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. Ça, c'est la règle qui s'impose à toutes les entreprises. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment maintenant de se remobiliser pour revenir au niveau de télétravail qu'on a eu au mois de novembre. Il ne s'agit pas de revenir à ce qu'on a eu au mois de mars et d'avril, où beaucoup d'entreprises étaient finalement... On avait dit aux salariés, restez chez vous, puis vous faites ce que vous pouvez en télétravail. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut aussi la continuité de l'activité économique. C'est important pour notre pays, c'est important pour sauver des emplois. Mais de revenir au niveau de novembre, c'est ce que j'ai demandé hier aux branches professionnelles que j'avais en face de moi.
Mais est-ce que vous pouvez véritablement les contraindre d'un point de vue légal avec des visites de l'inspection du travail ? Parce que c'est parfois difficile à déterminer ce qui peut être fait à distance ou ce qui doit être fait au bureau
dans certaines entreprises.
Je pense dans les banques notamment.
Oui. Moi j'ai eu le retour de mes services qui depuis une semaine sont sur le pont pour aller dans les entreprises, d'abord pour conseiller, pour accompagner, et puis éventuellement pour contrôler et sanctionner. Je peux vous dire qu'il y a des cas qui sont évident, quand on a des entreprises qui ne font aucun télétravail, là, il n'y a pas de doute. Et ça a pu conduire, notamment, j'ai en tête un cas où on avait finalement aucun salarié en télétravail. À la fin, on en avait 200. Voilà. Donc, je pense qu'on a des marges de progrès dans certaines entreprises. C'est une obligation de l'employeur d'assurer, de préserver la santé de ses salariés. Le protocole en entreprise dit ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes règles à appliquer en application des consignes sanitaires qui nous sont données. Et donc, un chef d'entreprise doit se conformer à ce protocole sanitaire.
Un peu comme les PV pour les couvre-feux, vous annoncez, Elisabeth Borne, que vous allez un peu plus sévir face à ces entreprises qui ne respecteront pas les règles.
Dans un premier temps, moi, je compte sur la responsabilité de chacun. Vous savez, je pense que chaque chef d'entreprise, chaque salarié peut mesurer ce que ça veut dire un confinement. On sait que ça a un impact très important sur notre économie, sur nos emplois, sur la vie du pays, sur l'éducation de nos enfants. Donc je pense que chacun peut aussi se dire qu'on essaie de trouver un chemin pour éviter un nouveau confinement. D'abord, chacun doit être responsable. Mais effectivement, si une entreprise ne joue pas le jeu, elle peut d'abord être mise en demeure. Moi, ce que je constate, c'est qu'en général, quand on a une mise en demeure, dans 90% des cas, l'entreprise se remet en ordre de marche. Et puis, effectivement, il peut y avoir des sanctions.
Oui, Elisabeth Borne, est-ce que le travail à domicile a vraiment un coût pour les salariés ? Parce que là, il y a une étude de DRH dévoilée ce matin dans le journal Le Parisien. Électricité, chauffage, fourniture, ça représenterait, dans certains cas, entre 150 et 170 euros. Est-ce qu'il faut engager des négociations avec les employeurs sur ces frais ? C'est une négo entreprise par entreprise ou pas ?
Alors, effectivement, le principe, il est simple. C'est que passer en télétravail, ça ne doit pas être un coût pour le salarié. Ça, c'est le principe constant. Dans l'accord, vous savez qu'il y a un accord qui a été trouvé entre les organisations patronales et syndicales il y a quelques semaines. Ce principe est réaffirmé. Ensuite, forcément, ça passe par une discussion au sein de chaque entreprise. Il ne va pas y avoir une règle unique qui s'applique à tout le monde. Mais le principe, il est très simple et c'est important que les entreprises le respectent, parce que sinon ça peut aussi décourager des salariés.
Ce chiffre, vous ne le contestez pas
Non, je ne le conteste pas. Enfin, moi, je n'ai pas les éléments pour vous dire dans telle ou telle situation combien ça peut coûter aux salariés. Je vous dis que le principe est clair, c'est qu'il appartient à l'employeur de couvrir les frais générés par le télétravail.
Oui. La prise en charge aussi avec le chômage partiel, est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Il y a beaucoup les permittents là, qui s'expriment, les intermittents dans le tourisme comme les guides, l'événementiel, etc. Ils affirment qu'ils ne sont pas suffisamment pris en charge. Quelle réponse vous pouvez leur apporter?
Écoutez, moi je peux leur dire qu'on est vraiment très attentif à la situation de tous ceux qui, avant la crise, enchaînaient des contrats saisonniers, des contrats courts. Ces contrats, pour beaucoup, soit la saison a été plus courte, soit elle n'a carrément pas eu lieu. Et puis, il y a beaucoup de secteurs où il n'y a plus du tout de contrats courts. C'est pour ça qu'on a mis en place une aide exceptionnelle qui doit permettre de garantir à ces salariés précaires qui doit permettre de leur garantir 900 euros par mois sur les mois de novembre à février. Et donc, on a versé les montants correspondants au mois de novembre et de décembre en fin de semaine dernière. 900 euros, on peut me dire, ça n'est pas beaucoup.
Oui, c'est pas beaucoup. Et moi, pour vivre, c'est difficile.
Que l'allocation chômage moyenne, c'est 1000 euros. Ouais. Donc, c'est aussi une aide exceptionnelle qui doit permettre, effectivement, de.
Il n'y avait pas d'autre possibilité, une année blanche, un petit peu comme pour les intermittents du spectacle classique, où c'était.
Écoutez, vous savez, je pense qu'il faut aussi être conscient que l'assurance chômage, c'est la solidarité de tous les employeurs et de tous les salariés. Il y a une question de justice aussi. Moi, je vous dis, quand vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, pour lesquels l'allocation médiane est de 1000 euros. Moi, je pense qu'une allocation de 900 euros, c'est aussi un sujet d'équité.
Oui. Elisabeth Borne, est-ce que le taux d'indemnisation du chômage partiel va baisser aussi dans les prochaines semaines?
Vous avez vu qu'on l'a prolongé à l'identique jusqu'à fin février. Bien évidemment, on protégera par le chômage partiel aussi longtemps que nécessaire les secteurs qui sont impactés par la crise, ceux qui sont fermés totalement, ceux qui sont fermés partiellement, et aussi ceux dont l'activité ne peut pas redémarrer, qui ne sont pas fermés administrativement.
Vous tablez sur la fin du printemps, début de l'été, probablement.
Moi, je vous dis, espère tous que cette crise sanitaire, on va en sortir. Mais tant qu'il y aura des restrictions sur un certain nombre d'activités, on les accompagnera avec une prise en charge à 100%, comme on le fait aujourd'hui.
Oui, la semaine dernière, vous avez, pendant d'ailleurs plusieurs jours, essayé d'inciter aussi les stations de sport d'hiver et les remontées mécaniques à engager les saisonniers directement au chômage partiel, pour qu'ils bénéficient justement de chômage partiel. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont joué le jeu, alors qu'on est en pleine saison?
On a les chiffres sur ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël. On a habituellement 60 000 saisonniers, 30 000 ont pu être embauchés. On sait qu'on a souvent un pic, on a toujours un pic pendant les vacances de février où on monte à 120 000 saisonniers. Donc c'est pour ça que moi j'ai lancé cet appel aux employeurs en leur disant « embauchez ces saisonniers ». Pour eux, c'est très important. Souvent, c'est 4 à 5 mois de l'année où ils peuvent avoir une rémunération. S'ils sont placés en activité partielle, ça ne coûte rien à l'employeur, puisque là encore, c'est pris en charge à 100%. Et ça permet
Est-ce qu'elles jouent le jeu, alors, les stations de ski ou
Alors, ça dépend vraiment des secteurs. Ça dépend des secteurs. 95% des saisonniers des remontées mécaniques ont pu être embauchés.
95%.
Donc, moi, je suis satisfaite que ces saisonniers soient protégés par l'activité partielle, ne se retrouvent pas effectivement à épuiser leurs droits au chômage, et j'invite vraiment les autres secteurs qui ont moins joué le jeu à le faire.
Oui, alors malgré la crise du Covid, vous insistez beaucoup, là, je l'ai lu, sur la reprise du dialogue social. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle conférence du dialogue social dans les prochains jours?
Alors, il y aura une nouvelle conférence du dialogue social autour du Premier ministre dans le courant du mois de mars. Vous savez, le dialogue social, il est permanent. Je trouve que la crise a vraiment redynamisé le dialogue social. On a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, notamment sur la reprise d'activité après le premier confinement. Il y a beaucoup d'accords qui sont signés sur l'activité partielle de longue durée. C'est le dispositif qui permet de protéger les emplois dans les entreprises qui ont une baisse durable d'activité. C'est des accords majoritaires au sein des entreprises. Vous savez qu'on a plus de 7000 accords de ce type qui ont été trouvés. Ça protège plus de 500 000 salariés grâce à ces accords. Donc il est très dynamique dans les entreprises. Il est dynamique au plan national puisqu'il y a eu un accord national sur le télétravail, sur la santé au travail, qu'on travaille aussi au quotidien avec les partenaires sociaux, y compris pour inventer des solutions pour les salariés dont les emplois sont menacés, pour pouvoir les former, pour qu'ils puissent rebondir vers d'autres secteurs. Donc ce dialogue social, il est très dynamique.
Oui.
Et moi, je trouve qu'il y a une très grande responsabilité de la part des organisations patronales et syndicales qui sont bien conscientes qu'on doit faire le maximum pour sauver les entreprises et pour sauver les emplois. C'est un sens des responsabilités qui tranche, pour parler franchement, par rapport à beaucoup de forces politiques qui ne font que critiquer.
Oui. Est-ce qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses aussi quand même les réformes en ce moment sur l'assurance chômage comme sur les retraites ?
Parce sur l'assurance chômage,
cette urgence, comme vous le venez
sur
de
l'assurance
dire.
Chômage, moi j'ai repris les discussions à la fin du mois de janvier et j'en avais eu évidemment à la fin de l'année dernière avec tous les partenaires sociaux. On sait que certains ne sont pas demandeurs d'une réforme de l'assurance chômage, mais je note qu'ils sont tous venus discuter cette réforme. Je souhaite la mener en allant au bout des discussions avec ces organisations patronales et syndicales. C'est une réforme qui a deux objectifs : lutter contre la précarité, avec notamment le recours excessif aux contrats courts, et on voit à quel point c'est pénalisant pour ceux qui vivaient de ces contrats courts, et puis assurer, donc c'est un système de bonus-malus qui doit se mettre en place pour les entreprises, et puis c'est aussi plus d'équité, parce qu'aujourd'hui le système n'est pas satisfaisant, vous n'avez pas du tout la même allocation si vous travaillez tous les jours à mi-temps, ou un jour sur deux à temps plein. À la fin, vous avez travaillé le même nombre d'heures, et vous avez une allocation qui est deux fois moindre quand vous êtes à mi-temps tous les jours. Donc, moi, je pense que cette réforme, elle est nécessaire.
Ensuite, c'est ce que vous répondez à l'opposition. Il y en a certains qui disent non, qui vous critiquent en disant non, il faut arrêter, mettre ça entre parenthèses.
Écoutez,
il y a d'autres
ceux
urgences.
Qui pensent que le système est idéal, ils n'ont pas dû bien le regarder. Vous voyez, moi, je pense que notre système, il faut l'améliorer et c'est l'objectif de cette réforme.
D'une façon générale, d'ailleurs, pour l'opposition qui vous critique, c'est ce que vous leur dites ? Elisabeth Borne,
je leur dis qu'il y a souvent beaucoup de critiques de gens qui n'ont pas bien regardé ce qu'on fait. Et donc, en l'occurrence, sur l'assurance chômage, je vous dis, il y a ces deux objectifs. Moins de précarité, plus d'équité. Et évidemment, il faut tenir compte du contexte du marché de l'emploi. C'est ce que j'ai proposé aux organisations patronales et syndicales, que les paramètres tiennent compte de la situation du marché de l'emploi.
Question avec Cécile de Ménibus, Elisabeth Borne.
On voit bien que les variants sont très, très contagieux, hein, tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'on attend pour isoler les gens dans des hôtels qui aujourd'hui n'ont pas de fermeture administrative et qui se meurent de faute de clients ?
Vous savez que les règles elles sont encore plus strictes quand on a des patients qui sont atteints de l'un des variants, où on a une mobilisation très forte de l'assurance maladie pour identifier les personnes qui ont été en contact avec ceux qui sont atteints de variants. Et effectivement, la stratégie, elle est bien d'isoler au maximum les personnes qui sont, de façon générale, contaminées par le virus, a fortiori avec le variant. Je crois que les gens préfèrent, en général, s'isoler chez eux, mais ça peut être aussi une solution.
Oui, mais ça n'a pas marché, ça. Oui, c'est un échec,
écoutez,
ça.
Je pense que le point qui est important, c'est déjà de convaincre chacun de s'isoler au plus tôt. Mm-hmm. S'il peut le faire chez lui, je pense que vous et moi, on préférait être à l'isolement chez nous plutôt que forcément loin de chez nous.
Vous êtes inquiète par ce qui se passe avec ce variant, justement, qui arrive aussi dans les écoles, là où on commence à fermer beaucoup d'écoles en ce moment. Il est temps que les vacances arrivent.
On est évidemment très vigilants. C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé il y a une dizaine de jours maintenant qu'on allait renforcer un certain nombre de mesures pour être encore plus vigilant pour éviter la circulation du virus. Ensuite, on regarde jour après jour comment l'épidémie évolue, le nombre de nouveaux cas, les patients en réanimation. Il faut être très vigilant. On voit que chez certains de nos voisins, ça a donné lieu à une flambée de l'épidémie. Pour l'instant, ça n'est pas le cas chez nous, mais on est très vigilants.
Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.
Restez avec nous dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.